Amen. Bonjour Sonra. J'ai eu un petit problème en préparant cette intervention ce matin. Vous avez déjà entendu parler du livre de Georges Perec, La Disparition. C'est un livre de 1969, de 300 pages, dans lequel l'auteur s'est mis pour défi de ne pas utiliser la lettre E. Et il a réussi, sans intelligence artificielle. Moi, j'ai la touche de R de mon clavier qui est tombée en panne. Donc du coup, ça donne Hébeu 1 ce matin, schiste supérieur aux anges. Alors si vous ne comprenez rien, il faudra s'habituer, on va faire avec. Non, heureusement, j'ai pu trouver une petite solution de dépannage en attendant de réparer ma touche R de l'ordinateur, mais le R, c'est quand même super important. Je tiens à le souligner. Il y a parfois des détails comme ça. Hébreux 1, 4 à 14, nous poursuivons notre série sur cette épître aux Hébreux et qui a été commencée la semaine dernière par Philippe avec une introduction. Je vous propose de commencer par lire le texte. Hébreux 1, 4 à 14. Et je vais commencer par le verset 3. Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges, Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. » Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. La semaine dernière, nous avons eu le droit à une présentation de l'épître aux Hébreux par Philippe, qui nous a expliqué qu'il y a deux mots clés dans le livre des Hébreux. Et comme vous étiez tous là la semaine passée, vous allez me dire quels étaient ces deux mots clés. Ah, vous n'y attendez pas à celle-là. Petite révision. Meilleur et persévérance. C'est un livre qui est là, qui s'adresse à des chrétiens de culture juive et qui sont encouragés à devenir meilleurs et à persévérer. Persévérer pourquoi ? Parce que ce livre des Hébreux est un livre qui insiste sur l'importance d'avoir confiance en Dieu, d'exercer sa foi en Dieu. Et lorsqu'on exerce notre foi en Dieu, on devient meilleur et on est encouragé à persévérer. Le thème central des Hébreux, c'est donc la foi. Le juste vivra par la foi. C'est un des trois épîtres qui a pour objectif de détailler ce que veut dire cette citation de Habacuc qui dit « Le juste vivra par sa foi ». Vous avez le livre de Romains, vous avez le livre des Galates et enfin le livre des Hébreux. Les trois ont des facettes différentes sur ce sujet de la foi. Le but des Hébreux, c'est d'insister sur le fait que la foi en Jésus-Christ est vivante par l'objet sur lequel elle porte, à savoir Jésus-Christ lui-même. Une foi saine et une foi solide, c'est une foi qui est fondée sur une vision claire et une compréhension claire de qui est Jésus-Christ. Et à la fin de ces 13 chapitres de Hébreux, notre perception et notre conception de qui est Christ devraient avoir franchi un palier et notre foi devrait s'en trouver solidifiée. La question qui est à l'entrée de ce passage
est très simple. Elle est marquée tout en haut.
Christ est supérieur aux anges. Autrement dit, la question qui est plus grand, les anges ou Christ ? L'auteur affirme que Christ est supérieur aux anges. Et il trouve cela important à préciser. Tout simplement parce que les chrétiens auxquels il s'adresse, qui sont de tradition juive, ont une forte compréhension, un fort intérêt de qui sont les anges. Alors, pour plusieurs raisons, mais dans la tradition juive, les anges jouent un rôle très important. Et de la même manière que vous aviez à l'époque de Jésus les Écritures, qui étaient une source de connaissance de Dieu, il y avait toutes sortes d'interprétations qui accompagnaient ces Écritures. C'était pareil pour les anges. Au-delà de ce que les Écritures disaient sur les anges, il y avait toutes sortes d'interprétations et d'explications sur l'importance des anges. À tel point que, de la même manière que dans la mythologie grecque, vous avez l'histoire de dieux, de demi-dieux, qui accomplissent chacun des choses extraordinaires, mais qui en même temps ont tous des défauts, mais qui représentent l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde matériel. De la même manière, les anges, dans la tradition juive, étaient devenus une sorte d'intermédiaire entre le Dieu très saint, que Dino a évoqué à l'introduction de ce culte, et les juifs qui n'avaient pas directement accès à ce Dieu très saint. Ils avaient donc pris une place particulière et joué dans la tradition juive un peu le rôle des dieux dans le panthéon grec. Il se trouve que dans ce livre de Pete Fromm, qui date de 2023, peut-être que vous connaissez déjà cet auteur, qui est un Américain, dans ce livre, il y a l'histoire d'un frère et d'une sœur jumeaux, Trigg et Hal, qui n'ont plus de contact avec leur père depuis un moment, et voilà qu'il réapparaît soudainement dans leur vie, et leur propose de vivre avec eux une dernière aventure, de partir en canoë pendant plusieurs jours, camper sur des lacs au nord du Canada, comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient enfants. Et ces deux jeunes adultes sont à la fois excités à l'idée de se retrouver et de vivre ces moments de complicité avec leur père. Et puis, en même temps, ils réalisent assez vite que les choses ne tournent pas rond. Leur père, qui était très méticuleux pour organiser les expéditions dans leur jeunesse, a oublié des choses, aussi anecdotiques que, par exemple, la carte topographique de la région. Et donc, ils voyagent uniquement de tête. Et ce qu'on découvre à travers ce livre, et je ne vous en dirai pas plus, c'est que ils se sont engagés un peu trop vite à suivre leur père sans avoir suffisamment pris soin de vérifier s'il était digne de confiance. Et c'est un petit peu ce que l'auteur de ce passage cherche à nous dire, à savoir qu'on peut être intéressé par certains sujets ou être impressionné par certaines personnes, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir en elles ou en eux une confiance aveugle et les suivre coûte que coûte. Ça vaut la peine parfois de prendre un peu de recul et de réfléchir. J'aimerais vous proposer de réfléchir ensemble à deux aspects que nous propose ce passage. Le premier aspect qui s'affiche ici en jaune, ce sont les anges. Qui sont les anges ? Je vous vois déjà en train de répondre, vous parents, à dire « oui, nos anges sont en face là-bas et... ». En réalité, vous avez vu qu'il y a un ange dans la salle. Il est là, énorme, qui veille sur nous. Les anges, qui sont-ils ? Et puis deuxième question, qui est Christ par rapport aux anges ? Alors, on voit vraiment que les anges, voilà, sont centraux dans ce passage, mais ils sont centraux dans toutes les Écritures, de G à A, de la Genèse à l'Apocalypse.
La première fois qu'on voit apparaître un ange sous le nom de chérubin, Genèse 3, c'est celui qui garde l'entrée du jardin d'Éden. Et puis dans l'Apocalypse, il est mention de, à plusieurs reprises d'anges qui font toutes sortes d'actions. Alors j'ai trouvé toutes sortes de qualificatifs pour mieux comprendre quels sont les métiers des anges dans les Écritures. Par exemple, les anges sont des annonciateurs et des ambassadeurs. Dans Luc, chapitre 1, on voit un ange annoncer à Zacharie que sa vieille femme, Élisabeth, va devenir enceinte. On voit un ange annoncer à Marie qu'elle va devenir enceinte. On voit des bergers se réjouir avec des anges autour d'eux pour la naissance de Jésus. On voit aussi, par exemple, Corneille, en acte 10, à qui un ange explique qu'il faut qu'il accueille Pierre parce qu'il a des choses importantes à lui expliquer, qui s'appelle l'Évangile. Et ces anges, parfois, annoncent de bonnes nouvelles, comme dans les exemples que je viens de vous citer, et puis parfois, ces anges annoncent de mauvaises nouvelles. Donc les anges peuvent être annonciateurs et ambassadeurs. Les anges peuvent être aussi bagarreurs. Vous avez déjà lu cet épisode de la Genèse où Jacob lutte contre Teddy Riner et il perd une hanche. Pas Teddy Riner, mais Jacob. Vous avez conscience que les anges sont aussi des serviteurs. Et pour cela, je voulais vous lire ce psaume 91 qui parle de ces anges serviteurs. Voici ce que dit le psalmiste. « Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et ce passage me parle tout personnellement parce que j'ai vécu cette situation de sentir cette protection des anges lorsque j'étais étudiant. J'étais en fin d'année d'études, de première année d'études, loin de chez mes parents, dans une chambre d'étudiant, avec un colocataire un peu bizarre, avec qui on parlait peu. Et j'étais arrivé au point où je me suis retrouvé devant ma chambre d'étudiant, à l'extérieur, et je n'avais plus la force de mettre la clé dans la serrure et de rentrer dans la chambre. Et à un moment donné, j'ai tout abandonné au Seigneur, et j'ai senti comme si ce n'était pas moi qui avais la force de le faire, mais c'était les anges qui me portaient. Et j'avais une sorte de sentiment d'invulnérabilité incroyable, comme si mes émotions n'avaient plus de prise sur moi, et comme si le péché n'avait plus de prise sur moi. Et là, vous allez me dire, il est complètement fou de raconter ça, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une expérience que j'ai vécue temporairement, et qui m'a marqué, et qui pour moi correspond à cette idée que les anges de Dieu me portaient lui-même sur mes mains. Dans ce moment de ma vie où ponctuellement j'avais plus la force de faire autrement. Je reviens à ces différentes qualités des anges. Ce sont des serviteurs et des protecteurs. Ce sont aussi des libérateurs. Dans Actes 5, 19, on voit qu'un ange ouvre les portes de la prison des apôtres et ils peuvent sortir libres. On voit dans Actes 8, Pierre qui est libéré de prison aussi par un ange. Savez-vous que les anges sont aussi des chanteurs et des adorateurs en chœur ? Puisque dans les bergers voient ce chœur d'anges qui se réjouit. Dans l'Apocalypse, on a plusieurs exemples de myriades d'anges qui chantent les louanges de l'agneau. Et si on peut penser que ce verset, cette citation de Jésus qui dit que parfois on a pu, sans le savoir, accueillir des anges autour de nous, peut-être que les chanteurs que nous avons le dimanche matin sont des anges, mais ça, je vous laisse l'apprécier. Les anges peuvent être aussi destructeurs et dévastateurs. Dans 2 Samuel 24, qui a été abordé vendredi soir, en étude biblique, un ange dévaste Jérusalem après le péché de David. Donc les anges peuvent aussi parfois avoir une fonction punitive et une fonction particulièrement, mais dans tous les cas, c'est au service de Dieu. Dans ce passage, plus précisément, Nous apprenons des choses sur les anges. On voit au verset 6 qu'ils se prosternent devant Dieu. Les anges adorent. On voit que ce sont des esprits, des serviteurs, des flammes de feu. Et c'est une précision importante. Les anges ne sont pas des hommes, ils n'ont pas d'enveloppe corporelle, ce sont vraiment des esprits. Ce sont des esprits au service de Dieu. Et enfin, ce sont des anges envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Pour résumer, on peut dire que les anges ont trois caractéristiques essentielles que ce passage nous montre. Ce sont des adorateurs, ce sont des serviteurs et ce sont des supporters de ceux qui doivent hériter du salut. Autrement dit, l'auteur est en train de dire aux chrétiens auxquels il écrit, vous êtes en marche vers votre Père et Sauveur Jésus-Christ et les anges supportent votre cheminement. Et là, ça m'encourage parce que je me dis, waouh, je ne suis pas tout seul dans ma marche, mais il y a des anges qui sont là et qui ont envie que j'aille au bout de cette marche. Et c'est d'autant plus extraordinaire que lorsqu'on regarde ce qui est dit dans 1 Pierre 1,10, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Pourquoi les anges nous supportent dans notre marche avec Christ? Mais parce qu'eux-mêmes aimeraient tellement pouvoir connaître Christ comme nous le connaissons et parce qu'ils découvrent à travers notre vie l'évangile, qui est Christ et comment il peut transformer notre vie. Ça, c'est juste incroyable. Alors, peut-être cette question vous est venue à l'esprit lorsqu'on parle des anges. Est-ce qu'il existe une hiérarchie des anges? Le jardin d'Éden était gardé par des chérubins. Et puis, on sait qu'il y a des archanges, l'archange Michel qui s'adresse à Daniel. Alors, est-ce que vous aimeriez savoir ce qu'en disait la tradition juive à l'époque? Je vais vous épargner cette petite description traditionnelle, mais qui s'est poursuivie en fait aussi dans l'ère chrétienne. On a les écrits d'un auteur qui s'appelait le pseudo Denis l'Aréopagite, qui a proposé une description de la hiérarchie céleste. Pour lui, en dessous de la Trinité, il y avait les anges, composés de 9 chœurs d'anges, rangés en 3 triades principales. Dans la première, on trouve les sérabins, les séraphins, les chérubins, les trônes, etc. etc. Si vous tapez « hiérarchie des anges » sur Internet, vous allez vite voir des images qui représentent ceci. Jean Calvin, donc le réformateur du XVIe siècle, a mis en garde contre la curiosité d'une telle démarche. Tout simplement parce qu'elle dépasse ce que la Bible en dit. Il n'y a pas suffisamment d'éléments, suffisamment précis, pour pouvoir, à partir de ce qu'on trouve dans la Bible, avoir une description précise ou claire d'une hiérarchie des anges. Voici ce que dit Jean Calvin. Pour que nos connaissances soient correctement structurées, ne nous occupons pas de questions sans intérêt dont débattent les personnes oisives qui, sans interroger la parole de Dieu, cherchent à connaître quelles sont la nature, le nombre et les catégories des anges. Et il qualifie même la hiérarchie céleste proposée par le pseudo Denis l'Aréopagite en grande partie de fable. Alors, ceci me mène à une autre réflexion, à savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler et rencontré dans les Écritures ce terme de l'ange de l'Éternel? On le rencontre à plusieurs reprises. Et parfois, on peut associer cet ange de l'Éternel à Christ et considérer que c'est une apparition de Christ dans l'Ancien Testament, avant même sa venue sur terre. Alors, c'est une interprétation qui doit être faite avec prudence, parce que, en fait, à la base, l'ange de l'Éternel, c'est d'abord et tout simplement un ange ambassadeur, un ange messager, un ange qui vient, qui est envoyé par Dieu pour une mission précise. Et puis, ça peut être parfois, dans certains cas, une manifestation de Jésus-Christ. L'exemple, c'est Moïse face au buisson ardent, avec l'ange de l'Éternel qui lui explique
comment aller parler à Pharaon. En fait, la difficulté d'affirmer que l'ange de l'Éternel, par exemple, qui se révèle à Moïse dans le buisson ardent, est Christ, c'est qu'il n'y a aucun auteur du Nouveau Testament qui reprend cette idée. Il n'y a pas d'auteur qui vienne dire, qui vienne faire l'analogie entre l'ange de l'Éternel et Christ. Et ça, c'est un indice qui invite à la prudence et qui montre que l'ange de l'Éternel peut être une image de Christ, mais pas forcément. Alors, pourquoi cette réflexion ? Parce que, considérer que l'ange de l'Éternel est à tous les coups Christ peut faire glisser dans l'idée que Christ lui-même serait un ange. Un ange particulier, un ange haut placé, une sorte de première créature de Dieu, mais qui serait puissant tout en étant distinct de Dieu. Et en fait, cette pensée que Christ soit un ange spécial, mais un ange quand même, c'est une hérésie qui existe depuis très longtemps. Au IIIe siècle, on appelait ça l'arianisme, de son auteur le plus influent qui s'appelait Arius. Et cette hérésie, elle a été condamnée en 325 lors du concile de Nicée. Et c'est dans ce concile qu'on a affirmé notamment le concept de la Trinité, à savoir que Dieu était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, mais que les trois ne formaient qu'une seule personne. Et qu'il y avait donc une complémentarité entre ces trois facettes de la personne de Dieu, trois en un en trois, et tous pour un. Mais la réalité, c'est que cet arianisme, il existe toujours aujourd'hui. Si vous avez eu l'occasion de discuter avec des témoins de Jéhovah, par exemple, eh bien, pour eux, Christ est une personne spéciale, importante, mais qui n'est pas Dieu. Et qui est inférieur à Dieu. Pareil pour les Mormons, etc. Donc c'est quelque chose à avoir en tête et qui est important pour notre équilibre. Cela m'amène à savoir ce que les anges ne sont pas. Qu'est-ce que les anges ne sont pas ? Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà ils ne sont pas des hommes, ils n'ont pas d'enveloppe corporelle, ce sont des esprits. Mais si je vais plus loin, et en lien avec cette hérésie de l'arianisme, les anges ne sont pas des intercesseurs, comme le croyaient les Juifs, qui en avaient fait des médiateurs entre Dieu et eux-mêmes. Les anges ne sont pas des intercesseurs. Ce sont des messagers, ce sont des ambassadeurs. Ils ont une mission à accomplir pour Dieu auprès des hommes, mais il n'y a qu'un intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Ils ne sont pas dignes de notre adoration ni d'un culte particulier. Ils ne sont pas en contact permanent avec nous. On a très clairement, dans les Écritures, conscience que les anges sont envoyés pour une mission ponctuelle, mais c'est délicat de parler d'ange gardien. C'est ponctuellement possible. On peut être gardé par les anges dans certaines situations, mais c'est difficile d'affirmer, il n'y a rien en tout cas dans les Écritures qui permette d'affirmer que nous aurions un ange gardien qui nous serait dédié en particulier. Dans Jean 15, 26, on lit « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et Calvin insiste sur l'idée que tous les soldats du ciel se préoccupent de notre salut et sont prêts à venir à notre aide, et que donc, c'est déjà énorme, et à savoir si on a un ange gardien ou pas, c'est secondaire. Si on est sensibilisé à cette idée d'ange gardien, ça vient plutôt de la tradition catholique, hein, dans notre culture. Les anges ne sont pas non plus tous des anges de lumière ou des serviteurs de la justice. Il existe des anges trompeurs et aussi des anges déchus, notamment Satan. Les anges ne sont pas donc tous des tentateurs, puisque ça c'est une particularité du diable qui veut nous écarter du salut et qui a un service opposé à celui que nous lisons dans ce passage. Ce qui nous mène à ce verset incroyable de Colossiens 2, et qui est là une affirmation importante sur ce que nous venons de dire, que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et un peu comme ces deux jeunes qui suivent leur père sur ce canoë dans les lacs du Canada et qui vont se perdre au fin fond du Grand Nord, eh bien, vouloir essayer de comprendre de A à Z ce que sont les anges et comment ça fonctionne, c'est faire fausse route. Vous savez d'ailleurs qu'on a une expression en français, on ne va pas discuter du sexe des anges. On ne va pas discuter sur le sexe des anges. C'est une expression pour dire qu'on ne va pas perdre du temps à débattre de choses futiles ou s'attarder sur des détails. On raconte, le 29 mai 1453, alors que la ville de Constantinople est assiégée par les Turcs, cette ville qui était la deuxième Rome et qui était le siège de l'Empire romain d'Orient et puis de l'Église orthodoxe, eh bien voilà qu'on raconte qu'une raison de la victoire des Ottomans tient au fait qu'au palais de l'empereur, les prêtres orthodoxes étaient occupés à discuter sur la question théologique du sexe des anges. Et la prise de la ville en aurait été facilitée. Alors on ne dit pas si cette histoire est vraie ou pas. On peut penser que ça a été inventé surtout par ceux qui, par leurs ennemis. Mais vous avez compris l'expression « discuter du sexe des anges », c'est s'intéresser à des débats superficiels. Et il se trouve que le sujet de ces versets qui nous intéressent ce matin, ce n'est pas les anges, mais c'est Christ. Et si je vous ai dit tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'était pour mieux revenir à cette deuxième partie, à savoir qui est Christ par rapport aux anges. Et voilà ce que ce verset 4 nous dit. Christ est ainsi devenu d'autant plus supérieur aux anges. Alors on apprend plein de choses sur Christ dans ce passage. On apprend notamment, verset 4, qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable. On apprend tout simplement qu'il est supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom extraordinaire. Ce nom, c'est celui de Fils, que personne d'autre n'a reçu, à savoir qu'il est directement l'héritier de son Père, l'engendré du Père, le premier-né, il est l'homme Dieu glorifié. On apprend qu'il est adoré par les anges. On apprend au verset 9 qu'il est roi, désigné par onction. On voit verset 10 qu'il est créateur. On voit qu'il est éternel et immuable au verset 12. Et enfin, verset 13-14, on voit qu'il est assis à la droite de Dieu et victorieux. Tout ce que nous apprenons ici sur Christ nous montre à quel point il est supérieur aux anges. Mais tout ce que nous apprenons ici sur Christ pointe dans une même direction. C'est que le Christ qui est décrit ici, c'est le Christ ressuscité. Celui qui est mort et qui est de nouveau vivant. Et d'ailleurs, au chapitre 2 de Hébreux, il est question de Christ qui est devenu temporairement inférieur aux anges lorsqu'il est mort, pour ensuite mieux remporter la victoire et montrer sa supériorité. Et ce passage insiste sur le fait que Christ supérieur aux anges, c'est Christ ressuscité, Christ glorifié, Christ assis à la droite du trône de Dieu. La rhétorique de l'auteur est intéressante parce que pour convaincre ces premiers chrétiens de tradition juive de la supériorité de Christ par rapport aux anges, il fait référence à 7 citations de l'Ancien Testament. Et vous voyez, j'ai souligné le texte, il est quasiment entièrement jaune, tellement ces citations prennent de la place. Il y aurait le temps de se poser encore une demi-heure sur chacune de ces citations et les passages d'où elles viennent, c'est juste extraordinaire. Mais je vous propose de retenir 3 idées concernant ces 7 citations. Déjà, l'auteur montre que l'Ancien Testament est une autorité indiscutable. Il appuie son argumentation sur cette source qui est cette parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, il ne fait pas référence aux auteurs de ces citations, mais à chaque fois il affirme Dieu dit, ou il a dit, il attribue ses paroles directement à Dieu pour mieux affirmer l'inhérence des Écritures, à savoir que Dieu a parlé à travers des hommes. Et puis, troisième remarque, c'est qu'il invite à discerner dans ses paroles de l'Ancien Testament le fait qu'elles étaient en rapport avec Christ lui-même. Et ça nous encourage, dans notre lecture de l'Ancien Testament, à chercher à comprendre ce que ces passages nous apprennent sur Christ, déjà avant même sa venue sur terre. Alors, c'est quoi le but du livre des Hébreux ? C'est de raviver la foi de ces chrétiens de culture juive en s'appuyant sur des aspects qui leur sont familiers. Les anges, pour eux, c'est une discussion de tous les jours. Et d'ailleurs, toute l'Écriture en est remplie. Et l'auteur insiste sur celui en qui ils ont mis leur confiance, qui est plus qu'un ange, qui est plus qu'un prophète, comme il est dit dans les premiers versets de ce chapitre 1 de Hébreux. Christ est le Fils de Dieu, le premier-né, le roi désigné par onction, toujours le même, immuable, éternel, ressuscité, glorifié et victorieux, assis à la droite du trône de Dieu. Et cela nous mène à deux applications évidentes et encourageantes pour nous. Première application, tirée du verset 4. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges. La question que je peux me poser et que vous pouvez vous poser, qui est le plus grand dans ta vie, les anges ou Christ ? Qu'est-ce qui est l'objet de tes réflexions, de tes pensées, les anges ou Christ ? Alors ça peut être pris au sens littéral, à savoir est-ce que vraiment les anges c'est quelque chose qui te passionne et qui te prend du temps, mais c'est aussi au sens figuré, à savoir quelles sont tes passions, quels sont tes centres d'intérêt et quelle est la place de Christ par rapport à ces centres d'intérêt. Est-ce que tu es préoccupé de mieux connaître Christ jour après jour ? Est-ce que tu es préoccupé par le monde surnaturel ou par des passions toutes naturelles qui t'empêchent de prendre du temps pour mieux connaître qui est Christ ? Alors que de Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible me parle de Christ, eh bien je peux l'ouvrir pour chercher et découvrir chaque jour mieux qui est Christ. Deuxième application, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ? On a vu dans ce passage que les anges sont des serviteurs de Christ, des adorateurs de Christ et des aidants pour ceux qui aident Christ. Mais finalement, est-ce que les anges ne sont pas des exemples pour nous ? Nous sommes aussi appelés à servir Christ, nous sommes aussi appelés à adorer Christ, nous sommes appelés aussi à nous encourager les uns les autres pour aller de l'avant et pour ne pas nous éloigner de notre amour pour Christ et de notre souci d'aller jusqu'au bout avec lui. Et ça, c'est super d'avoir ces anges en exemple. Cette foi en Christ supérieure aux anges a un impact sur notre vie, et c'est ce qu'on verra au chapitre 2, qu'on poursuivra dans quelques dimanches. Amen.